Place. Lors de la précédente assemblée générale de notre Église l'année dernière, nous avions avancé ensemble sur la réflexion sur notre avenir de notre Église en faisant une petite enquête, en essayant de dégager un certain nombre de mots qui pouvaient un petit peu définir la vision, le projet que nous voudrions pour notre Église. Et un mot en particulier était ressorti, c'était le mot « ouverture » dont on a parlé déjà un peu ce matin. Et ça a débouché sur la formulation d'une phrase, dite déjà dans le rapport moral, mais que je rappelle. Notre communauté désire cultiver l'ouverture à l'Esprit de Dieu et sa parole, les uns aux autres et sur notre monde. L'ouverture, ce terme qui a été retenu. L'ouverture, une ouverture qui se cultive, parce qu'on estime qu'il y a déjà peut-être un petit peu d'ouverture parmi nous, mais qu'on ne peut pas se contenter de cela. Parce qu'une ouverture qui ne se cultive pas, qui ne s'entretient pas, c'est une ouverture qui se perd. C'est sans doute quelque chose à chercher, sans doute sans cesse à retrouver, à renouveler, à cultiver. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous un petit peu plus longuement sur le troisième aspect de l'ouverture mentionné dans notre phrase, l'ouverture sur notre monde. Et en y réfléchissant, en y pensant, m'est venu à l'esprit le verset biblique que tout le monde connaît, le texte biblique le plus connu, que je vais vous lire dans une version un peu inhabituelle, ça vous permettra de le renouveler peut-être, quoique vous pourriez le dire par cœur, Jean 3, verset 16. Ce texte qui dit dans la version Parole de vie, « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas, loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. » Dieu a aimé le monde. Il a aimé le monde. Dieu a aimé ceux qui ne l'aimaient pas. Dieu a aimé ceux qui voulaient se passer de lui, ces créatures qui ont voulu être autonomes, choisir toutes seules le bien et le mal, sans se référer à leur créateur. Dieu a aimé ce monde qui ne s'intéressait plus à lui. Et Dieu a tellement aimé ce monde qu'il a envoyé son Fils dans ce monde. Son Fils unique. Et il ne l'a pas envoyé seulement pour venir faire un petit voyage d'agrément, pour observer, éventuellement pour transmettre un message et puis repartir tranquillement chez lui. Le Fils de Dieu est devenu un homme. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils qui est devenu l'un des nôtres, et plus encore, en envoyant son Fils, Dieu savait que ce monde qui ne l'aime pas n'allait pas accueillir son Fils. Dieu savait que ce monde qui est révolté contre Dieu allait rejeter, allait condamner, allait tuer son Fils. Et parce que Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils. Si ça, c'est pas de l'ouverture sur le monde, qu'est-ce que c'est alors ? Notre ouverture sur le monde, celle que nous voulons prôner à travers la phrase que nous avons lue tout à l'heure et qui est, je crois, une motivation noble et juste, cet amour pour le monde ne devrait-il pas, cette ouverture sur le monde, pardon, ne devrait-elle pas s'inspirer de cet amour parfait de Dieu pour le monde, pour nous ? Notre ouverture sur le monde ne devrait-elle pas être un écho à cet amour immense de Dieu pour le monde ? Autant dans une église, dans une perspective d'église, on arrive facilement à comprendre ce que c'est que l'amour pour Dieu, l'amour les uns pour les autres. Pensons-nous à l'amour pour le monde ? Qu'en est-il de cet aspect-là de l'amour ? Dieu a tant aimé le monde, et nous ? Qu'en est-il de nous ? Aujourd'hui, Jésus n'est plus dans le monde. Mais avant de partir, il nous a passé le flambeau. Voici ce qu'il dit dans sa prière à la fin de sa vie ici-bas, Jean 17. Je lirai un extrait, simplement les versets 13 à 20. Jean 17, versets 13 à 20. Maintenant, Père, je vais auprès de toi, mais je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie totale. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés. En effet, ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Tu m'as envoyé dans le monde, de la même façon, je les envoie dans le monde. Pour eux, je m'offre moi-même entièrement à toi, alors ils seront eux aussi entièrement à toi par la vérité. Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles. Autrement dit, ce que Jésus dit ici dans cette prière à ses disciples, il le dit pour nous aussi. Et lorsqu'il dit à son Père, « Tu m'as envoyé dans le monde et moi maintenant je les envoie de le monde », il s'adresse à nous. Nous sommes envoyés dans le monde par notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde. Comment parlons-nous du monde dans l'Église ? Alors que parfois, on souligne le principe de séparation d'avec le monde, qui est quelque chose qui est développé parfois dans les églises évangéliques, qui a une certaine pertinence, mais je crains que parfois on l'ait mal compris, mal interprété. Parce qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Notre ennemi, c'est pas le monde. Notre ennemi, c'est le mal qui peut être dans le monde. Le mauvais, comme l'appelle cette version. Celui avec qui nous devons n'avoir aucun contact, c'est le diable, pas les non-croyants. Notre ennemi, c'est pas le monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, dit Jésus, mais je te demande de les protéger du mauvais. Quand on parle de séparation d'avec le monde, pour l'Église, pour le chrétien, aujourd'hui, on ne parle pas des gens. On ne dit pas de se séparer des gens qui sont dans le monde. On ne doute pas qu'il faut nous couper de nos contemporains parce qu'ils pourraient, on ne sait jamais, nous contaminer d'on ne sait trop quoi. Bien sûr qu'il y a dans le monde, dans toute société de tout temps, il y a eu et il y aura encore des valeurs, des pratiques, des modes de pensée, des philosophies qui sont parfois contraires à l'Évangile. Et là, il faut dire non. Là, il faut dire je ne suis pas d'accord. Là, il faut dire je ne vais pas suivre. C'est ça, se séparer du monde, de l'esprit du monde, de ce qui est contraire à l'Évangile et à la volonté de Dieu. Bien sûr qu'il faut refuser simplement de se fondre dans la masse, tout le monde pense comme ça, tout le monde fait comme ça, donc nous tant pis, on le fait aussi. Ça, c'est absurde. Bien sûr qu'il ne faut pas simplement se plier à l'opinion majoritaire, parce que c'est l'opinion majoritaire. Surtout lorsqu'elles sont évidemment en contradiction avec les valeurs de l'Évangile. Mais il ne faut pas se séparer des gens. Je ne te demande pas de les ôter du monde, dit Jésus. Il ne faut pas refuser par principe tout ce qui vient du monde. Toute innovation, toute pensée, toute culture issue de notre société, ça ne vient pas des chrétiens, ça ne vient pas de l'Église, je ne veux pas en entendre parler. Quelle ouverture sur le monde alors ? L'ouverture sur le monde dans lequel le Seigneur nous envoie pour être témoin, pour vivre l'Évangile, l'ouverture sur ce monde-là, c'est aussi de savoir accueillir ce qu'il y a de bon et d'utile dans le monde. Le monde, mais pas notre ennemi. Alors l'ouverture sur le monde que nous voulons cultiver, c'est vous qui l'avez dit, hein, puisque c'est la phrase que nous, qu'on a retenue, cette ouverture-là demande bien plus qu'une simple adaptation du langage dans nos prédications, plus que d'ajouter, de mettre de la musique moderne dans la louange, ou d'avoir un joli site internet sur la toile. Tout ça c'est bien, mais tout ça c'est qu'un traitement de surface si on en reste là. L'enjeu dans l'ouverture sur le monde, elle se vit dans notre quotidien, dans votre quotidien. Pas tellement, pas seulement le dimanche matin en culte, mais aussi le lundi matin au travail, ou le samedi après-midi dans nos loisirs. C'est au quotidien que se joue cette ouverture sur le monde. Comment vivons-nous dans le monde ? Et là encore, on peut revenir à l'exemple donné par Jésus lui-même. Jésus allait voir ceux que les autres rejetaient, ceux que les chefs religieux en particulier considéraient comme des impurs ou des infréquentables, des gens justement dont il fallait se séparer, se couper. Et Jésus n'allait pas seulement là-bas pour les évangéliser et ensuite rapidement y rentrer chez lui bien au chaud à l'abri. Il vivait avec eux. Il allait chez eux. Il mangeait avec eux. Ce qui provoquait d'ailleurs le scandale et l'offuscation des chefs religieux et des gens qui voyaient « Mais Jésus, comment tu fréquentes ces gens-là ?» Eh oui, Jésus allait vers ces gens-là parce qu'il les aimait. Il témoignait d'une ouverture étonnante sur le monde, ses contemporains, ceux qui avaient tellement besoin de lui. Je me demande si trop souvent, les chrétiens n'ont pas ressemblé plus à des disciples de pharisiens qu'à des disciples de Jésus. Plus prompts à juger, à se considérer comme des purs au milieu des impurs, et à préférer rester entre eux pour surtout ne pas être contaminé par les impurs. Ça, c'est la pensée des pharisiens. C'est pas du tout la pensée de Jésus. Les lépreux étaient considérés comme des impurs. D'ailleurs, ils avaient des clochettes qui avertissaient tout le monde. Ils arrivent, les lépreux arrivent, fuyez. Jésus, lui, allait à leur rencontre. Il osait même les toucher, les guérir. Et la guérison que Jésus apportait, ce n'était pas simplement une guérison de leur lèpre et de leur maladie, c'était une guérison sociale. Ça les rétablissait dans le monde dont ils étaient exclus. Voilà l'ouverture dont Jésus a fait preuve au cours de sa vie. Et l'exemple de fermeture, c'est les pharisiens. Quel est notre exemple dont nous nous inspirons lorsque nous vivons dans le monde ? Notre ouverture sur le monde, sur notre monde, commence par le regard que nous portons sur ce monde, sur nous, sur eux, sur lui, autour de nous. Est-ce que c'est un regard de jugement ou un regard d'amour ? Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que c'est un regard qui obéit à un réflexe de recul, de crainte, ou qui a une volonté de comprendre, d'accueillir, de rejoindre ? N'est-ce pas l'exemple que Jésus nous a laissé ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, et son Fils nous envoie à notre tour dans le monde pour l'aimer, pour y vivre l'Évangile, pour y être témoin en parole et en acte de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais nous ne pourrons l'être que si nous avons une réelle ouverture sur nos contemporains. Une ouverture qui renonce au réflexe de jugement pour chercher à accueillir, à comprendre, à aimer. Une ouverture, bien sûr, qui reste malgré tout vigilante, parce que tout n'est pas bon et utile dans le monde. Jésus dira à ses disciples qu'il les envoie comme des brebis au milieu des loups, donc il faut être vigilant et pas être naïf non plus, bien sûr. Restons lucides et empreints de discernement. Mais n'oublions pas que ce commandement central, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans ce commandement-là, le prochain, c'est celui ou celle qui croise ma route dans ce monde, ici-bas, quel qu'il soit, qui qu'il soit, il est mon prochain et Jésus m'envoie vers lui pour l'aimer comme lui m'a aimé. Amen.